Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1991, puis régulièrement réédité, L'Empire du Bien est un essai polémique de Philippe Murray. En une forme brève, dense et satirique, il propose un diagnostic de la culture occidentale qui se consolide selon lui depuis les années 1980. Son objet ne consiste pas à attaquer une vertu particulière ni à défendre le mal comme valeur. Murray examine plutôt la mutation du bien en normes collectives obligatoires, soutenues par le consensus, la célébration permanente et le désir de transparence morale. Pour nommer ce monde, il forge notamment Cordicopolis, le cordicolisme et le festivisme. Ces termes visent une société qui prétend réconcilier les individus autour de causes incontestables, mais qui réduit ainsi la possibilité du désaccord, de la négativité et de la singularité. Le livre appartient à la tradition française du pamphlet, avec une langue volontairement excessive, comique et abrasive. Son but est moins de fournir une enquête sociologique systématique que de créer des outils critiques capables de rendre visibles les automatismes moraux et culturels de son époque. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, Cordicopolis, ou la cité gouvernée par le culte du cœur, le concept de Cordicopolis est le centre imagé de l'Empire du Bien. Murray reprend le terme ancien de Cordicole, lié au culte du Sacré-Cœur, afin de désigner une cité moderne qui ne se pense plus principalement à partir de la loi, du conflit politique ou de la transcendance, mais à partir de la compassion proclamée. Le cœur y devient une autorité symbolique. Il ne renvoie pas seulement aux sentiments privés, il sert de critère public pour définir ce qui paraît admissible, respectable ou indigne. Cette construction satirique permet à Murray de déplacer le débat. Il ne décrit pas un pouvoir qui imposerait brutalement une doctrine unique, mais une pression diffuse vers la moralité visible et l'adhésion affective. Dans une telle cité, le désaccord risque de ne plus être discuté comme une divergence de jugement. Il est interprété comme un manque de sensibilité ou comme une faute morale. La force du mot Cordicopolis tient donc à sa double portée. Il caricature une époque, mais il désigne aussi un mécanisme lorsque les sentiments collectivement valorisés deviennent indiscutables, ils peuvent produire de la conformité. Murray met ainsi en cause non le souci des autres en lui-même, mais la sacralisation sociale de ce souci lorsqu'elle neutralise la critique, la nuance et les contradictions humaines. Deuxièmement, le festivisme est la transformation de la fête en obligation sociale. Murray emploie le terme festivisme pour analyser un paradoxe de la société contemporaine, la fête, supposée être libre, intermittente et joyeuse, peut devenir une injonction collective. Dans son regard, la culture issue de la célébration post-68 tarde ne se limite plus à des moments de divertissement. Elle tend à imposer une manière de paraître disponible, enthousiaste, jeune et réconciliée avec tout. La fête cesse alors de suspendre les règles ordinaires. Elle devient elle-même une règle. Cette intuition explique la place importante accordée dans le livre aux signes culturels, médiatiques et artistiques de l'euphorie obligatoire. Murray ne regrette pas simplement une austérité passée. Il s'intéresse au coût intellectuel de l'optimisme public lorsqu'il rend suspecte la gravité, la réserve, le refus ou la discordance. Le festivisme favorise un monde où chacun est invité à participer à des rituels consensuels plutôt qu'à soutenir des conflits d'idées réels. La critique vise donc une sociabilité qui convertit toute opposition en mauvaise humeur et tout recul critique en anachronisme. En donnant à ce phénomène un nom volontairement frappant, Murray montre que la libération par le plaisir peut, sous certaines formes, se retourner en discipline symbolique. L'analyse demeure une provocation, mais elle éclaire la différence entre une fête choisie et une fête devenue modèle de comportement. Troisièmement, le nihilisme rose, une critique de la vertu consensuelle, la formule nihilisme rose condense la thèse la plus paradoxale de Murray. Il ne présente pas le nihilisme comme une violence spectaculaire ou un désespoir déclaré. Il l'associe à une civilisation qui affirme partout ses bonnes intentions, son altruisme et son refus du mal. La couleur rose signale précisément cette douceur apparente. Pour Murray, le danger vient de ce que le bien, lorsqu'il est réduit à un langage public automatique, peut perdre toute profondeur éthique. Il ne demande plus un jugement difficile sur les actes et les situations. Il exige des signes immédiats de conformité morale. Cette critique rejoint son idée de nihilisme passif, expression qu'il rattache à une tradition de pensée où le renoncement au conflit de valeurs peut prendre les apparences du calme et de la pacification. Dans ce cadre, la vertu affichée ne fonde pas nécessairement une vie morale plus exigeante. Elle peut fonctionner comme un dispositif de classement entre paroles légitimes et paroles exclues. Murray force volontairement le trait et son propos ne doit pas être confondu avec un rejet des luttes contre les discriminations ou des causes humanitaires. Son enjeu est différent, il interroge la manière dont des principes largement approuvés deviennent intouchables et cessent par conséquent de faire objet de débats. Le pamphlet invite ainsi à distinguer la responsabilité morale authentique de la mise en scène sociale de la rectitude. Quatrièmement, la pensée unique comme disparition du conflit et du jugement, l'empire du bien est souvent présenté comme un pamphlet contre la pensée unique. Mais cette expression doit être comprise dans son sens murayen. Il ne décrit pas une idéologie parfaitement cohérente, contrôlée par une institution unique. Il décrit plutôt un climat moral où certaines opinions semblent aller de soi parce qu'elles sont associées au bien. Le consensus agit alors moins par démonstration que par réflexe. Il transforme les questions complexes en épreuves de pureté, où la position correcte doit être reconnue sans hésitation. Morey insiste sur le caractère anti-dialectique de cette situation. Une société vivante accepte que les valeurs entrent en tension, que des intérêts s'opposent et que les mots soient disputés. La culture qu'il caricature préfère la réconciliation immédiate et traite le conflit comme un résidu regrettable. Or, supprimer symboliquement la négativité ne la fait pas disparaître. Cela empêche surtout de la formuler et de la penser. Cette analyse donne au livre sa portée politique et intellectuelle. Le pluralisme ne consiste pas seulement à tolérer plusieurs choix privés, il implique que les consensus dominants restent exposés à la contradiction. La prose de Murray peut sembler injuste par ses généralisations et ses attaques, mais elle cherche délibérément à restaurer une fonction du négatif. Son excès rhétorique constitue une riposte à ce qu'il perçoit comme un langage public trop lisse, trop moralement assuré et insuffisamment capable de supporter la dissension. En dernier lieu, une méthode pamphlétaire fondée sur le néologisme, la satire et l'excès, la singularité de l'empire du bien tient autant à son écriture qu'à sa thèse. Murray ne procède pas comme un sociologue qui isolerait des variables et mesurerait leurs effets. Il construit des mots, accumule les rapprochements et pratique une ironie corrosive afin de donner une forme perceptible à un phénomène qu'il estime mal décrit. Corticopolis, corticolisme et festivisme ne sont pas des catégories neutres. Ce sont des instruments de combat intellectuel, ils condensent un jugement, révèle des parentés inattendues et cherche à déstabiliser les évidences du lecteur. Cette méthode s'inscrit dans la tradition du pamphlet qui privilégie la voix, le rythme et la formule sur la démonstration exhaustive. Elle produit une lecture stimulante parce que les concepts restent mémorables et que les descriptions visent des comportements reconnaissables. Elle impose aussi une précaution critique, les généralisations de Murray. Son ton d'attaque et son goût de la caricature ne remplacent pas une analyse historique détaillée des institutions, des mouvements sociaux ou des opinions qu'il vise. Lire le livre avec profit suppose donc de prendre au sérieux sa capacité de diagnostic sans transformer chacune de ses formules en constat définitif. Son style est inséparable de son projet face au langage consensuel qu'il dénonce, Murray choisit une écriture de rupture. Le lecteur y trouve moins un système clos qu'une expérience de critique par la satire, orienté contre les mots qui paraissent trop naturellement vertueux. En conclusion, l'Empire du Bien conviendra aux lecteurs intéressés par les essais de critique culturelle, par la tradition du pamphlet français et par les débats sur le conformisme moral. Le politiquement correct, la médiatisation des causes et la place du conflit dans la démocratie. Il sera particulièrement utile à qui souhaite disposer de mots incisifs pour interroger les formes contemporaines de l'approbation collective. Sa lecture peut aider à distinguer une conviction éthique vécue, toujours exposée à la discussion, de la vertu devenue signal social ou critère de respectabilité. Elle encourage aussi à examiner les coûts possibles de la célébration permanente suspicion envers le refus. Difficulté à supporter la négativité et réduction des désaccords à des manquements moraux. Toutefois, cet essai demande une lecture active. Son écriture est polémique, ses formules sont très englobantes et son plaisir de la satire peut heurter ou masquer certaines nuances. Il gagne à être lu comme un diagnostic littéraire et philosophique, non comme une description exhaustive de la société. Comparé à des ouvrages plus académiques sur les idéologies ou les médias, il se distingue par la puissance de ses néologismes et par son refus du langage modéré. Murray ne cartographie pas patiemment un phénomène, il invente une scène conceptuelle Corticopolis pour en faire sentir la logique. Cette alliance de comique noire, de provocation et de vigilance critique explique la place durable du livre dans les discussions françaises sur la bien-pensance et le consensus. Si vous souhaitez soutenir Philippe Murray, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.